France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous, c'est l'un des plus beaux musiciens que j'ai rencontré, disait Nadia Boulanger en évoquant son élève, le pianiste et compositeur Noël Lee. Je vous propose de l'écouter aujourd'hui dans une archive de 2002 au micro de Vincent Figuri, à qui il avait confié ses souvenirs pour l'émission Mémoire retrouvée. Noël Lee évoquait ses débuts sur le sol américain et son parcours d'interprète et de compositeur qu'il avait amené en France en 1948 pour suivre les fameux cours de Nadia Boulanger.
Noël Lee, au quotidien, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ?
Aujourd'hui,
vous travaillez encore votre piano ?
Ah oui.
Tous les jours ?
Non, pas tous les jours, en ce moment que je compose.
Mémoire retrouvée. Noël Lee, le compositeur et l'interprète, ou le passionné équilibré ? Mais vous disiez tout à l'heure qu'il fallait tous les jours travailler son piano. Et
oui, en principe, ça c'est la théorie. Et en principe, évidemment, quand je compose, je joue aussi mes choses, mais c'est pas un travail, c'est pas un vrai travail de morceau. Si j'apprends un morceau nouveau, je prends tout le morceau a un tempo où je peux tout jouer sans m'arrêter. Même si c'est deux fois plus lent. Et je note le métronome. Et chaque jour, j'augmente le métronome. Et si jamais je suis obligé de m'arrêter au milieu, je travaille cette passage et je recommence.
Noël Lee, vous m'avez dit ces jours-ci que vous aviez retrouvé le programme de votre premier concert.
Je n'avais même pas 6 ans. J'étais sur un programme des élèves de mon professeur de piano dans l'Indiana. Lafayette, exactement.
Ah, à Lafayette.
Yeah, c'est bien. J'étais prédécidé à venir en France, évidemment, grandissant d'une ville. J'étais un des des 10 ou 12 élèves qui étaient sur le programme.
Et c'est à Lafayette que vous avez fait vos études en Indiana, donc vos études de piano.
Ben, avec le professeur privé, oui. Oui, oui. Dès 5 ans, oui.
C'est vous qui avez réclamé ?
Je ne sais plus. Je sais que mes parents étaient des musiciens amateurs. Ma mère, que je n'ai pas connue, était pianiste amateur. Et j'ai même encore quelques partitions d'elle. Certainement, j'ai dû montrer quelques inclinations musicales. Et surtout, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur un professeur qui était formidable. Bon, je crois maintenant, pour les enfants, il y en avait des leçons de piano individuelles. Et une classe avec des gosses de mon âge, enfin où on était tous ensemble à prendre les notes, de chanter ensemble, et chacun voulait faire mieux que l'autre, évidemment. Or, le solfège, je n'ai pas du tout enseigné aux États-Unis. Donc, j'ai eu tout de suite des leçons, sans qu'on puisse appeler ça des leçons d'harmonie, enfin tout ça.
Ah oui,
vous avez étudié la fascination des choses nouvelles, comme ça.
L'harmonie dès les plus jeunes années.
Oui.
Et quels sont vos premiers souvenirs musicaux? Vous avez entendu vos parents jouer, puisqu'ils étaient musiciens
amateurs? Non, je n'en ai pas. Non, mais ma mère, je ne l'ai pas connue, mais mon père chantait des ballades un peu américaines, je m'en souviens des ballades de l'époque, enfin des époques 20 et 30, et aussi chanter des parties de solistes dans les oratoires de Mendelssohn à l'église.
Vous étiez un bon chanteur.
Il était bien, il avait une jolie voix. Son goût était un peu, pour moi, trop facile déjà.
Vous étiez déjà difficile.
Oui. Trois professeurs de piano en tout, qui me poussaient dans le répertoire. Enfin, j'ai travaillé éventuellement, comme adolescent, travaillé les concertos de Schumann, les concertos de Mozart, enfin, des trucs comme ça. Beaucoup de sonates de Beethoven, bien sûr, beaucoup de Bach, bien sûr, et même de Debussy.
Debussy, que vous allez retrouver pendant toute votre vie.
Oui.
Et vous avez quitté l'Indiana, vous n'êtes pas resté dans l'Indiana?
Moi, j'ai fait mes études à Harvard, j'étais dans l'armée américaine pendant plus de 3 ans pendant la Deuxième Guerre mondiale, et j'étais appelé dans l'armée américaine à 18 ans, comme tous les Américains à l'époque, et jusqu'à 21 ans, et j'ai repris mes études à Harvard après, tout ça. Harvard, qui n'a pas de conservatoire, c'est uniquement des études théoriques de composition, de musicologie et tout ça. Donc, tout le piano que j'ai fait, c'était à part. Enfin.
Qui était ce professeur?
Au début, avant la guerre, c'était quelqu'un qui s'appelle Boris Godolsky, qui était connu après parce qu'il a fondé une compagnie d'opéra à Boston. Il présentait beaucoup d'opéras. Il était très connu comme metteur en scène, comme chef, tout ça. Et après la guerre, c'était un Hongrois qui venait d'arriver de la Hongrie, Miklos Schwalb, qui était un pianiste très brave. Finalement, il ne connaissait rien de la musique contemporaine, et c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Je m'en souviens, j'avais joué la première sonate de Hindemith une fois pour lui, et il dit finalement à la fin, vous savez, vous connaissez mieux cette musique que moi. Alors, pour un prof, il dit ça à son élève, évidemment.
Et l'attirance pour Hindemith restera vivace puisqu'en 1981, Noël Lee enregistrera la sonate pour piano à quatre mains avec Christian Ivaldi. Thank you. Bartok a eu une certaine importance dans votre vie.
Oui, c'est-à-dire, avant d'aller dans l'armée, pendant 6 semaines, j'ai assisté aux conférences que Bartok avait données à Harvard.
Alors, c'était comment ça?
C'était extraordinaire, sauf que je ne comprenais rien de tout. Il parlait très doucement. Quand il voulait se mettre au piano, c'était un tigre. C'était vraiment. Mais quand il parlait, c'était très très doux. Et puis il parlait du folklore transylvanien ou quelque chose comme ça. Enfin, un sujet qui m'intéressait pas spécialement. Et de toute façon, à 18 ans, j'attendais pour aller dans l'armée. J'étais pas prêt à penser à l'avenir à ce moment-là. Enfin, à cet avenir-là. La musique de Bartok, après, m'a beaucoup influencé.
Vous avez un souvenir de lui particulier?
Oui, j'ai un souvenir de cet homme, cet petit homme avec un regard extraordinaire qui parlait très doucement, très intensément en même temps.
Alors, à Harvard, donc, vous ne faisiez pas
Harvard, Harvard, de toute façon, c'était surtout, à ce moment-là, branché sur Stravinsky et un peu sur Hindemith, mais surtout Stravinsky. Parce que Stravinsky avait donné des conférences 2 ou 3 ans avant, et tous mes professeurs étaient pratiquement des ex-élèves de Nadia Boulanger, et donc très influencés par Stravinsky et tout ça.
Dont le professeur de composition que vous avez eu et qui s'appelle
Walter Piston. Le compositeur.
Oui.
Et à ce moment-là, le département de musique a donné une espèce de festival qui s'appelait Symposium de la musique du 20e. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Ils ont donné des commandes à des compositeurs importants comme Schoenberg, Martinu, Copland, Piston. Donc, j'ai entendu beaucoup de créations de compositeurs contemporains. Et c'est là aussi où j'ai fait la connaissance de Copland.
C'est là que vous l'avez rencontré pour la première fois?
Oui, oui. Et j'ai joué pour lui, je crois, j'ai joué probablement ces variations que je venais apprendre. Je ne sais pas si c'était le cas ou non, je ne m'en souviens plus maintenant. Mais enfin, je sais que quand je lui ai dit que j'allais à Paris, il disait, oh, c'est une très bonne idée d'étudier avec Nadia Boulanger et donnez-moi votre adresse et puis tout ça. Enfin, on est resté en contact tout le temps après.
Thank you.
Comment se passaient les leçons avec Walter Piston? Vous apportiez quoi? Des devoirs d'harmonie ou bien des compositions?
Ah non, les compositions, surtout l'orchestration. C'est ça qui l'intéressait beaucoup. Non, l'harmonie, j'avais eu avec d'autres professeurs. Mais c'était l'orchestration et puis composition aussi.
Et donc, vous êtes parti en France sur les conseils de vos maîtres?
Oui, et puis Piston m'avait fait avoir une bourse aussi pour étudier.
Et vous êtes arrivé à Paris, vous aviez quel âge?
23 ans.
En pleine après-guerre, si je puis dire, Paris,
oui,
c'était très différent
48.
À l'époque.
Oui. Oui.
Et alors, vous êtes tout de suite allé chez Nadia Boulanger.
Oui.
Comment était-elle? Comment ça s'est passé?
Ça s'est passé très bien. C'était pour les leçons privées, chez elle, une fois par semaine, rue Ballu. Et ça s'est passé tout de suite très bien. Elle m'a beaucoup encouragé, puis... je sortais de chaque leçon tout à fait gonflé, très... Très exubérante.
Et alors, le travail consistait en quoi? Qu'est-ce que vous faisiez chez Nadia Boulanger?
Elle écoutait, si je jouais pas bien, elle écoutait la chose, elle disait, oh, c'est le tel endroit, est-ce que vous avez bien entendu cela? Est-ce que vous voulez vraiment dire ça? Beaucoup de ses élèves étaient pianistes.
Donc, vous jouiez vos compositions?
Oui.
Et
oui,
après, elle prenait le texte, elle le commentait avec vous?
Oui, c'est ça, voilà. Mm-hmm. Elle avait une oreille extraordinaire, elle entendait tout. Et puis surtout, elle a voulu que l'élève entende exactement tout. Est-ce que vous avez bien entendu cet endroit-là? Est-ce que vous êtes sûr de cet endroit-là? Absolument sûr. Elle avait un don pour choisir les endroits qui étaient peut-être un peu plus faibles, ou pas aussi bien conçus. Mm-hmm. Ça, elle était formidable.
Et vous êtes resté combien de temps dans sa classe?
Mais c'est pas dans sa classe. D'abord, je suis resté chez elle pendant un an, et après, il m'a dit, il faudrait que vous, parce qu'elle ne tutoyait jamais ses élèves étrangers. Les Français, oui, mais pas les étrangers.
Ah bon?
Que vous veniez dans ma classe au conservatoire, la classe d'accompagnement au piano. Un titre très innocent, mais s'agissait de déchiffrer les partitions d'orchestre au piano, de transposer à vue des leaders, de réaliser des bas chiffrés, de réaliser des chandonnées, de beaucoup de choses.
Donc vous avez...
Et là aussi, on était plusieurs, chacun voulait faire mieux que l'autre parce qu'on était plusieurs, y compris quelqu'un qui est connu en France maintenant, Michel Legan, qui était aussi dans sa classe, qui était plus jeune que moi. Et il était très doué pour improviser déjà, un peu à la Revel, et il savait ce qu'il allait faire parce que son père était très connu à l'époque, évidemment, il y avait un orchestre de variété aussi. C'était amusant, puis beaucoup d'Américains. De mes camarades, d'ailleurs.
Mais est-ce que cette classe d'accompagnement a déclenché quelque chose en vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté, finalement?
C'est surtout, parce que c'était surtout une classe d'analyse. Parce qu'on déchiffrait les quatuors de Beethoven, par exemple, à quatre mains ou piano seul. Et puis, elle montrait ses procédés de composition, de structure et tout ça. Les cantates de Bach. Combien de cantates de Bach est-ce qu'on a déchiffré tous? Extraordinaire. Thank you.
étiez tous autour du piano.
Oui.
Et puis,
oui,
oui. Il y avait une cantate sur le pupitre et on passait l'heure.
Oui, on passait longtemps, oui, c'est ça. Oui. Ou bien elle jouait, ou bien elle faisait jouer ses élèves et tout ça.
J'imagine qu'elle déchiffrait magnifiquement, elle réduisait.
Elle avait déjà commencé à avoir des problèmes de main, au point où, l'année après ou 2 ans après, elle m'avait demandé de la remplacer pour un programme des noces de Stravinsky. Elle était une des 4 pianistes, et je sais que Geneviève Joie était une des autres, et puis je ne m'en souviens plus les autres. Et puis Geneviève me dit toujours, elle se souvient du jour où la première répétition, et on s'attendait tous à Nadia Boulanger, qui connaissait la partition par cœur, parce que c'était Stravinsky, et puis à la place de Nadia Boulanger arrive ce jeune homme.
Et donc, vous êtes resté combien de temps chez elle, en fait?
À peu près 5 ans, ou 4 ans et demi.
Et quelle trace ça a laissé dans votre vie de musicien?
D'abord, psychologiquement, encouragement du début à la fin. Même pour le piano, parfois, quand je n'avais rien à lui montrer du point de vue du composition, elle m'a dit, mais je lui manque quelque chose. Et pour ça, elle était aussi excellente. Elle entendait exactement le poids des sons, le rapport des sonorités, le cheminement du discours. Enfin, tout ça, c'était dans la structure du morceau.
Donc, en fait, elle pouvait aussi bien donner une leçon de piano qu'une leçon d'analyse,
oui,
ou de composition.
Oui, oui. Ah, oui, 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 absolument. Et il y a certaines choses, elle nous a demandé, on était 4 ou 5 Américains, et comme elle s'occupait des concerts au cercle interallié, elle nous a demandé très souvent de jouer. Et des programmes très difficiles, parce que c'est un endroit, comme toujours, je crois, assez snob, et on s'en fichait un peu de la musique contemporaine. Mais parfois, elle faisait bisser, on sait bien, elle avait donné, la messe de Stravinsky, enfin, une œuvre de Stravinsky, au début du programme. Elle a fait aussi la même œuvre à la fin du même programme. Et évidemment, on entendait les gens qui disent « Ah, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on a entendu. » Enfin, des gens pas spécialement mélomanes. Mais comme elle était très bien vue dans les milieux bourgeois de ce cercle-là, on pensait que c'était très bien.
Et elle a porté des jugements très élogieux sur vous. Vous êtes resté en contact avec elle après
Oui, 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 oui. Pas tout de suite, parce que j'ai fait une chose que mes camarades américains n'ont pas fait. Et eux, ils avaient tous des raisons de partir aux États-Unis, de repartir, de rentrer chez eux. Et moi, j'avais décidé, après 3 ans déjà, j'avais décidé de rester en France. Après 3 ans, j'avais pris des engagements avec une contratrice américaine qui chantait au Met pour des récitals. Finalement, j'ai annulé parce que je disais, je connais pas New York, je connais Paris après 3 ans mieux que les autres villes américaines, pourquoi pas rester ici? Et alors, évidemment, c'était un peu difficile au début. J'étais répétiteur dans une compagnie de ballet, le ballet du Marquis de Cuevas, où il y avait des danseurs comme Skibin, comme danseuses comme Tall Chief, Marty Tall Chief, Rosella Hightower, enfin, Skouratov, Vladimir Skouratov, enfin, des danseurs extraordinaires. Et je faisais travailler un ballet de Jean-Michel Damas qui s'appelait Piège de lumière. Et sur un piano droit, évidemment, pour les danseurs qui reprenaient chaque 3 mesures. Enfin, mais c'était... C'est comme ça que j'ai gagné quelques sous au début. Après, j'avais un peu plus d'ambition de ça.
Et cela le conduit à produire ses premières compositions, comme cette sonatine de 1959, dont voici le rondo final.
Thank you.
Et puis surtout, ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi, les services d'information, les services culturels américains avaient à cette époque un énorme programme en Allemagne, après la guerre, pour envoyer les artistes américains pour jouer des œuvres qui avaient été défendues pendant la période nazie. Et donc j'ai fait, je ne sais pas, une centaine de récitals dans toutes les villes pratiquement de l'Allemagne de l'Ouest.
Comme pianiste soliste.
Comme pianiste soliste.
Et alors qu'est-ce que vous jouez
là ? Et aussi en même temps comme avec musicienne de chambre et tout ça.
Et qu'est-ce que vous aviez à votre répertoire ? Vous
aviez... il y avait le répertoire classique, il y avait du Chopin, il y avait du Brahms, il y avait Beethoven. Et puis la musique de mes camarades américains, parce que surtout le but était de jouer la musique américaine. Paul Desmarais, qui était un compositeur, Douglas Allenbrook, un autre. Mais puis à moi, enfin, tout ça, c'est pour montrer un peu la jeune musique. Harold Shapiro, c'était un professeur de là-bas aux États-Unis. Irving Fine, mon professeur à Harvard. Alexei Hayev, qui était aussi un compositeur. Tout ça, c'est les ex-élèves, d'ailleurs, de Nadia Boulanger, souvent.
Rester en lien avec Nadia Boulanger, me disiez-vous.
Ah oui, alors je commence à dire, pas tout de suite après, parce que j'ai fait une chose, j'ai quitté mes leçons avec elle, tout en restant à Paris. Alors, elle était formidable, mais aussi très possessive pour ses élèves qu'elle aimait. Et elle ne voulait pas les lâcher. Et moi, je trouvais que c'était tout de même, à 28 ans, c'était temps...
De prendre son envol.
Oui.
Et donc, vous l'avez quitté, en quelque sorte.
Ouais, j'ai cessé les leçons, tout le temps. Mais, 2 ans après, j'ai commencé un duo violon-piano avec un violoniste extraordinaire, Paul Makordovitsky, qui avait été un de ses élèves quand il avait, lui, 8 ans, qui habitait à Paris avant la guerre.
Il était américain ?
Il était américain d'origine russe, né à Stockholm, mais citoyen américain. Et donc, on avait un duo pendant 10 ans. Et grâce à des relations, on a pu commencer à enregistrer des disques tout de suite. Et on lui a demandé toutes les sonates de Beethoven. On a demandé à Nadia Boulanger de faire un commentaire sur les disques. Et là, elle fait des choses très gentilles sur moi.
Répertoire de violon avec ce partenaire.
Oui.
Et vous tourniez en Allemagne aussi avec lui, j'imagine.
Oui, un peu partout. Exactement.
Les sonates de Beethoven.
Brahms, Bach. On a eu le grand prix de disque en 59 pour les sonates de Bach. Joué au piano, où les basses étaient doublées parfois. Comme j'avais fait beaucoup de clavecin, je savais comment allaient les 4 pieds et les 16 pieds au clavecin. Donc, je doublais parfois les choses comme on double au clavecin. Mais c'est plus difficile au piano.
Vous avez fait du clavecin ?
Oui. avec vous, Gérald Jaline, élève de Vandalandaske.
Un vrai professeur de clavecin.
Oui, bien sûr. À Siena, pendant l'été.
À Siena, c'est ça.
Siena, oui. Les Italiens appellent ça Siena.
Siena, oui. Mais qu'est-ce qui vous a attiré vers cet instrument?
J'aimais bien le son. J'avais des disques de Vandalandaske pour les Goldberg. Évidemment, tout le monde crache sur ça maintenant, mais le répertoire, évidemment, y était pour quelque chose. Donc, cette musique-là m'intéressait beaucoup.
Donc, vous avez préféré faire un petit bout de chemin avec le clavecin, alors, si je comprends
bien.
Oui. Vous avez dit un beau jour, je vais aller étudier le clavecin en Italie.
Oui.
C'était l'Italie autant que le clavecin, ou bien?
Oui, c'était les deux. D'ailleurs. Après Sienne, j'avais passé un mois à Florence seul, alors ça, sans faire de musique du tout, mais simplement en visitant la ville, et en me décidant que jamais je ne pourrais habiter en Italie, parce qu'on ne travaille pas. Il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses. C'est tellement un pays extraordinaire, mais pour la musique, enfin, il faut faire ça à l'intérieur, enfin, il faut être. Donc ça, c'est pour moi, c'était définitif.
À Paris, il y avait moins de choses à voir.
Oui. Non, il y a plein de choses à voir, mais on a le temps de les voir si on habite là.
Et vous me disiez, c'est le répertoire aussi qui m'a attiré vers le clavecin, c'est-à-dire?
C'est-à-dire aussi, il y avait tout de même quelques morceaux contemporains, certaines choses. Et puis mes camarades aussi commençaient à écrire des petites pièces pour le clavecin. Parce qu'il y avait un de mes camarades était clavecédiste aussi. Et c'est probablement lui qui m'a influencé à aller à Sienne.
Donc vous parlez du répertoire du clavecin plutôt contemporain.
Oui, aussi contemporain, oui.
Mais
c'est toujours la oui, bien sûr, mais toujours la musique contemporaine qui, de toute façon.
Est-ce que le désir d'approfondir Bach vous a emmené vers le clavecin?
Oui.
Vous la jouiez au piano? Vous jouiez Bach au piano?
Ah oui, bien sûr. Ah oui, toujours. Même jusqu'à il y a 2 ans, dans un concert de l'année 2000, qui était l'année Bach, on m'a demandé de jouer Bach au piano. Mm-hmm. Ça vous étonne?
Premier mouvement de la 5e sonate en fa mineur de Jean-Sébastien Bach, c'était en 1959, le duo Paul Makanowitzki au violon et Noël Lee au piano obtenait le grand prix du disque de l'Académie Charles Cros. Noël Lee lisait Bach avec l'oreille du claveciniste.
C'est tout à fait une autre technique. Moi, je suis, pour le clavecin, je suis plutôt amateur. Je connais le clavier, mais les toucher et tout ça.
Parlez-nous un peu des quelques compositions que vous avez écrites pour le clavecin.
Voilà, la première chose, c'était une commande pour faire une musique de fond pour une exposition de rétrospective de robes de 1900 à 1950 qui avait lieu aux galeries Printemps.
Donc on vous a mis en vitrine au et Printemps avec non, derrière
non,
la
c'était, c'était pas moi en robe, non. Mais il voulait une musique de fond pendant tout ça. Et qui passait tout le temps d'ailleurs.
Et alors Noël Lee, vous êtes compositeur et vous avez consacré une grande partie de votre travail à la composition. Vous avez toujours composé ?
Oui, toujours, même comme gosse aussi.
Et quand vous étiez enfant, vous écriviez déjà ou vous avez commencé par un peu d'improvisation ? Comment ça s'est passé ? Quelles sont les premières
sources ? J'écrivais toujours. C'est curieux parce que je n'ai jamais vraiment improvisé, si, improvisé peut-être, mais j'écrivais tout de suite les improvisations. Pour moi, c'était pas improvisation, parce que ça, c'est quelque chose qui existe en soi, et puis on s'en occupe, c'est éphémère, enfin, on s'en occupe plus. Mais moi, j'écrivais toujours, je m'en souviens, j'écrivais beaucoup de musique de chambre, enfin, les petites formations de chambre, étant gosse et adolescent.
Comme quoi, par exemple?
Oh, ben, les trios, pas forcément avec du piano, avec des bois, avec, hautbois, violoncelle, clarinette peut-être, je ne sais plus, je ne sais pas où sont ces partitions d'ailleurs. Mais tout ça c'était imité de la musique que j'écoutais à l'époque, évidemment c'était pas très original probablement.
Et c'était quoi cette musique que vous écoutiez?
C'est la musique que je jouais. Que je jouais et puis aussi que j'ai écouté à la radio. J'écoutais tous les samedis après-midi l'opéra diffusé en direct du Met, et tous les dimanches après-midi, le concert diffusé en direct de l'orchestre de New York. Et j'avais un cahier où j'ai noté ça, quel morceau, qui dirigeait, et parfois même je dessinais des portraits pour mettre un thème.
Quelles ont été vos premières influences pour la composition?
Au début, c'était Stravinsky, surtout, un côté néoclassique. Et c'était très... Je parle de mes compositions. C'était surtout l'influence.
Néoclassique?
Ah oui. Mais c'était la période néoclassique américaine excellent, avec les œuvres de Copland et tout ça.
Vous avez écrit des œuvres néoclassiques?
Ah oui.
Comme
oui.
Par exemple?
La sonatine de piano, qui date des années 50, c'est plutôt... néoclassique, mais tout ça c'est 59, mais deux ans après, en 61, j'ai fait les études pour piano, donc sur un rythme de Béla Bartók.
Voilà, oui, oui.
Et en plus, une étude pour sonorités variées où on pince les cordes à l'intérieur du piano. Tout ça, c'est tout à fait autre chose.
Et cette étude, par exemple, elle est basée sur quel rythme de Bartók?
Le rythme qui vient de la sonate pour deux pianos et percussions.
Que vous avez joué? J'imagine.
Oui, même pour ça, j'ai joué probablement la première, une des premières exécutions à Paris, avec une pianiste qui était aussi chez Daniel, et on avait besoin d'un chef pour cette période-là. Ça a dû être en 49 ou 50, au Cercle interallié. Et le chef était Karl Husa, qui est un compositeur maintenant tchèque très connu aux États-Unis. Et le premier percussionniste était Serge Baudot.
Sur un rythme de Béla Bartók, la première des quatre études pour piano de Noël Lee par Noël Lee.
Noël Lee, vous avez joué le concerto, pas le concerto, vous avez joué une pièce de Stravinsky avec Stravinsky dans la salle. Si, c'était le concerto.
Oui, concerto pour deux pianos.
Oui, c'était où ça?
Bien sûr, c'était dans un festival en Angleterre, à Dartington Hall, en 57.
Et vous saviez avant de rentrer sur scène que Stravinsky était là?
Ah, c'était prévu. Oui.
Ça ne vous a pas ému plus que ça?
Si, mais enfin, c'était aussi l'inconscience, ou bien je connaissais bien le concerto. D'ailleurs, je jouais par cœur avec mon camarade. Ce qui était un peu... C'était un peu audacieux, tout de même, je trouve.
Vous le referiez?
Non. Pas avec le compositeur dans la salle.
Et il avait eu un jeu, il était venu vous voir, j'imagine. Il vous avait...
Oui.
Et qu'est-ce qu'il vous avait dit?
La seule chose qu'il avait dit, m'en souviens, mais est-ce que c'était avant ou après? C'est que la toute dernière note à un des pianos, qui était un mi, il ne fallait pas le jouer. Il fallait laisser sonner. On savait jouer avant, mais il ne fallait pas répéter.
La note finale?
La note finale, oui.
C'était une question de détail, finalement.
Oui.
Il était venu avec sa loupe pour regarder la
non,
dernière
non,
note?
Non, c'était une question de faute d'imprimerie. Certainement, il voulait dire ça.
Une autre rencontre va ouvrir à Noël Lee un univers qui lui restera cher.
Vous avez beaucoup joué Debussy, Noël Lee.
Mais là aussi, au début, c'était tout à fait par hasard, dans un sens. On m'avait demandé de jouer avec Flora Vent, qui était un soprano, qui faisait beaucoup de musique française à Paris, qui faisait beaucoup de musique contemporaine. À la suite, elle chantait mes mélodies à moi, parce qu'elle était une grande supporteur de mes choses, de faire un disque Debussy.
Elle était américaine?
Non, suisse.
Ah oui.
Mais elle habitait ici. Et puis après, quand le disque était fait, le producteur, qui était le producteur de la jeune maison Valois, m'a demandé si je voulais faire un disque de Debussy seul, piano seul, parce qu'il trouvait que les couleurs que j'avais faites dans la mélodie étaient intéressantes. À cette époque-là, Debussy, c'était une espèce de post-romantique que j'avais joué comme adolescent, Jardin sur la pluie, Reflet dans l'eau, tout ça, La fille aux cheveux de lin. C'était un peu anecdotique, peut-être, avec les titres descriptifs, tandis que moi, j'étais pour la musique plus absolue. Enfin, c'est pas le mot que je cherche, mais peu importe. Donc, j'ai fait un disque Debussy, piano seul, et puis celle-là aussi. Le tout premier disque a eu le Grand Prix en 59, la même année d'ailleurs que les sonates de Bach avec violon. Thank you.
Donc finalement, Noël Lee, vous êtes en train de me dire que vous avez abordé Debussy par ses mélodies.
Oui, oui. Enfin, on m'a fait aborder Debussy par ses mélodies.
En plus, on vous a fait aborder Debussy et c'est devenu une grande histoire d'amour.
Ben oui,
Debussy
exactement,
et vous.
Exactement. Mm-hmm. Oui, oui.
Vous avez joué tout Debussy.
Oui, oui, et enregistré deux fois.
On vous charge actuellement d'éditer chez Durand, de donner la version définitive de quelques pièces de Debussy, sa musique à quatre mains, je crois. Donc vous êtes reconnu comme un des grands spécialistes de Debussy.
Le premier volume à quatre mains est sorti il y a deux mois, avec les 5 pièces sur 8 inédites jusqu'ici. C'est grâce à François Lesur qu'on a découvert des pièces de jeunesse de Debussy à quatre mains, qui n'avaient jamais été éditées. Christian Evaldi et moi, nous avons fait 2 CD de Debussy, 2 pianos et 4 mains, 2 CD qui sont plein craqué, 78 ou 79 minutes chacun. Et puis après, une fois que ces CD ont paru, on a découvert encore une pièce de Debussy à 4 mains, de l'époque.
Noël Lee, vous avez enregistré combien de disques ?
Jusqu'ici, 196.
196. Vous avez enregistré des choses toutes plus incroyables les unes que les autres. Vous avez enregistré beaucoup de musique pour piano seul. Vous avez fait, entre autres, l'intégrale Schubert. Vous avez fait l'intégrale Debussy. Vous avez enregistré tout Ravel. Vous avez enregistré du Chopin, du Brahms, du Stravinsky, et puis tout un tas de maîtres qu'on connaît moins. J'étais très étonné de voir Chopin, par exemple, dans votre discographie.
Oui, oui, oui. Mais ça, c'est pour un club de disques. On m'a demandé. D'ailleurs, la personne qui m'avait poussé vers Chopin en me disant qu'il fallait que j'en joue, c'était Roland Manuel. Et il m'avait demandé une fois, m'a téléphoné pour savoir si je voulais faire une émission Chopin. Avec le premier scherzo, avec d'autres pièces. Et après, j'aimais beaucoup ça. Et lui, surtout, m'a encouragé en disant, ça c'est bien, il faut que vous enregistrez ces œuvres-là. Et puis, un club français du disque, quoi, m'a demandé un disque Chopin. Donc, j'ai fait les 4 ballades et la barcarolle.
Vous n'êtes jamais revenu à Chopin ?
Si, j'ai joué la barcarolle en concert souvent.
Et les ballades ?
Les ballades, de temps en temps, ben plus maintenant.
Vous avez joué par contre tout un tas de petites choses comme Field, comme Hummel, comme Moscheles.
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce
répertoire ? Extraordinaire comme compositeur. C'est du pré-Chopin, c'est romantique, mais encore avec le cadre classique, enfin c'est organisé, structuré comme la musique classique.
Il y a un univers qui vous est cher, je crois, c'est Schubert.
Oui.
Vous avez enregistré, vous avez été le premier à enregistrer toute l'œuvre pour piano
toutes les sonates
de Schubert.
Toutes les sonates et les impromptus, enfin, mais toutes les sonates, y compris les sonates inachevées.
Et vous avez fait quelque chose de très particulier pour ces sonates inachevées.
Je les ai achevées.
Vous les avez achevées de votre propre chef, si
oui.
Je puis dire.
Oui. Vous avez dit... C'est-à-dire, j'ai composé parce que c'est très facile. Il s'arrête pratiquement toujours juste avant la reprise des thèmes, dans le premier mouvement, je parle. C'est presque toujours le premier mouvement. Pas toujours, mais presque. Et on sait ce qu'il fait pour la reprise, avec les exigences de tonalité chaque fois. Mais ce n'est pas systématique chez lui. Et l'édition Henley... Madora Skoda fait ça, mais d'une façon systématique, chaque fois, et je trouve que c'est pas très réussi.
C'est-à-dire qu'il répète l'exposition?
Oui.
Systématiquement?
Oui, oui.
Et vous n'avez pas fait
non.
Systématiquement?
Non, parce que d'abord, Schubert a presque chaque fois une coda.
Donc vous l'avez écrite vous-même?
Oui, oui. Et aussi, il a une seule sonate des 23, où Schubert fait la réexposition systématiquement, et c'est la seule. Mais évidemment, c'est celle-là que Badoer Skoda a pris comme modèle.
Et qu'est-ce qui vous a engagé vers cette voie d'achever les
sonates? Parce que je trouve les inachevés, il y avait des choses tellement extraordinaires musicalement que c'était dommage de s'arrêter en plein milieu comme ça. Voilà, c'est tout. C'est pas tout, mais la grande, ce qu'on appelle la reliquie, la grande 840 en do majeur, il y a deux mouvements inachevés. Et c'est tellement extraordinaire. Le premier mouvement, il y a quatre mouvements tout dans celle-là. Les autres, il n'y a que trois mouvements. Dans celle-là, il y a quatre. Les deux premiers mouvements sont achevés. Et la plupart des pianistes jouent ces deux mouvements qui tiennent très bien. Mais il y a deux autres mouvements inachevés. Menuet et le final, qui est une espèce de rondo. Thank you.
Le final de la sonate des reliques, dite reliquiée, jouée et reconstituée par Noël Lee, d'après les esquisses de Schubert, c'est une archive de l'Institut National de l'Audiovisuel de 1989. Schubert, dont l'univers convient parfaitement à Noël Lee, si l'on se fie entre autres à son humour et à sa mémoire.
Une autre chose qui m'a plu quand j'étais plus jeune, où on m'a appelé passionné, équilibré.
Et entre la tête, le cœur et les doigts, passion et équilibre s'harmonisent-ils facilement?
Non, ça dépend où est l'équilibre. Parfois c'est équilibriste où on est.
Cette émission a été réalisée par Géraldine Putner et Yves Baudry, prise de son Éric Audra. Un grand merci pour leur recherche à Edith Monéger de la Discothèque de Radio France ainsi qu'à Annie Lozana de l'Institut National de l'Audiovisuel.
C'était La mémoire retrouvée de Noël Lee, une émission que Vincent Figuery avait enregistrée en 2002. La réécoute et le podcast de cette archive sont disponibles sur le site francemusique.fr, sur la page des Trésors de France Musique. Béatrice Trichet a réalisé cette séquence d'archives avec Adelino Mello pour le mixage, en collaboration avec les documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.